Tu pars du principe que Jésus de Nazareth est Dieu. Comment arrives-tu à cette affirmation ? Je pense notamment à cet argument qui note que la divinité de Jésus de Nazareth a été élaborée par ses disciples, a posteriori.
Dans la critique historique.
Oui.
Alors l'affirmation à partir de laquelle je réponds à la question de la divinité du Christ, c'est la suivante. Je pense que le Christ est venu pour poser une question, et cette question c'est « Qui dites-vous que je suis ?» Mmh. Or, il faut bien répondre à cette question. Alors on peut faire l'autruche et se prétendre agnostique. « Oh, c'est pas possible de trouver... » Bon. Il a posé une question. Il n'a pas dit qu'il n'était pas Dieu. Il n'a pas dit qu'il était Dieu. Mmh. La critique historique a dit qu'il n'était pas Dieu et que ça a été inventé par les disciples. En fait, ce que la critique historique ne veut pas admettre, c'est que le Christ est venu poser une question et que chacun y répond. Les disciples y ont répondu en affirmant sa divinité.
Oui.
D'autres y répondent autrement. Même chez les témoins de Jéhovah, ils y répondent autrement. Voilà, moi j'y ai répondu. Au moins dans la même lignée, je dirais, du christianisme officiel, je crois à la divinité du Christ. Maintenant, lorsque le Christ pose la question « Qui dites-vous que je suis ?», je pose encore une autre question. Est-ce que lui-même le savait ? Qui il était ? Là, ça commence à devenir, non pas alambiqué, hein, mais est-ce qu'il posait la question aux disciples parce qu'il se la posait lui-même, à lui. Moi, je pense que le génie de Dieu, c'est d'avoir réussi à se faire homme en ignorant même qu'il était Dieu, et en le découvrant lui-même. Parce que le problème dans la divinité du Christ, c'est pas que Dieu est en train de dire aux hommes « Oh, je me suis fait homme, il faut que vous l'acceptiez, c'est un scandale ». Non, il est en train de dire « C'est pas scandaleux que Dieu se fasse homme, voilà ce qu'il dit ». Ce qui est scandaleux, c'est que l'homme devienne Dieu. Or, le Christ découvre, lui, l'homme, qu'il est Dieu. Il le découvre. Petit à petit, il se pose la question, il la pose aux autres. Parce qu'en fait, le scandale, ce n'est pas d'accepter la divinité du Christ. Le scandale, c'est de comprendre qu'il y a un cheminement de l'homme et que ce cheminement va aboutir à cet impossible, à cet abîme impossible à franchir, à cet infini des possibles, pour reprendre une expression de Kierkegaard. L'homme va devenir Dieu.
Oui, c'est un peu le propos central de ton texte. Mais alors, est-ce que tu penses que Jésus de Nazareth, qui s'est découvert Dieu progressivement, d'après plus ou moins ce que tu dis, est-ce que tu penses qu'il est Dieu au même titre que nous pouvons le devenir, d'après le projet de Dieu ?
Alors avant de répondre à ta question, je précise, hein, j'affirme pas de manière carrée, péremptoire, il savait pas qui il était. J'affirme que Dieu a eu le génie de s'incarner dans une humanité charnelle, jusqu'à un point tel de se poser lui-même la question s'il n'était pas Dieu, parce que c'est quelque chose qu'il ignorait étant tellement homme. Mmh. Et que ce génie-là, finalement, c'est le génie de renvoyer cette question à l'homme. Et homme, tu pourrais pas te poser la question si des fois, ton devenir, c'était de devenir Dieu. Mmh. Au lieu de te poser la question, est-ce que c'est scandaleux ou pas que Dieu se fasse homme ?
Oui.
On s'en fout un peu.
D'accord.
Et donc c'est ça le génie de Dieu. C'est en ça que je dis, est-ce qu'il le savait lui-même ? Parce que finalement, il se pose la question, il la pose aux disciples. Et en posant la question aux disciples, qui dites-vous que je suis ? Il est en train finalement de poser une autre question. Qui êtes-vous ? N'êtes-vous pas, vous aussi, ceux qui vont devenir fils de Dieu ?
D'accord. Hein ?
Bon, alors ensuite, ta question. Non, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas être Dieu comme le Christ est Dieu. Mm. Parce qu'il est le commencement. Il est le Père. Quand il dit « je vais rejoindre le Père », bon, quand il dit « le Père, il sait des choses que moi je ne sais pas », ben évidemment, parce que il le sait quand il est le Père. Mm. Hein ? Donc, il le sait, mais il ne sait pas qu'il le sait, mais il sait qu'il le sait quand il sera le Père, si tu me suis. Hein. Devenir Dieu, ce n'est pas devenir le Père, dans le sens de devenir celui qui va donner de son sang pour enfanter des fils de Dieu. Même si après, on peut supposer qu'effectivement, il y a une possibilité d'enfanter,
oui.
Même plus tard. Mais tu peux pas être le père d'où tu es né. Non, il n'y a pas une égalité. Il restera le grand frère et il restera le père.
Donc tu dis avec ce texte que le scandale n'est pas que Dieu se soit incarné, mais que Dieu invite l'homme à se questionner sur sa possibilité d'être Dieu. Pourtant, on lit dans la Genèse « Vous serez comme des dieux ».
Oui, oui, c'est une parole qui est reprise dans l'Évangile, qu'on met dans la bouche du Christ, hein, justement.
Et qui rejoint ce projet.
Exactement.
Ce discours.
C'est-à-dire, le scandale, c'est pas que Dieu se soit incarné, c'est le scandale, c'est est-ce que toi, tu peux t'incarner en Dieu ?
Donc, il reprend une parole qui existe déjà dans le judaïsme.
Oui, il y a une parole qui est reprise, qu'on met dans la bouche du Christ, mais qui est issue des psaumes. Mais toi, là, tu parles de la parole qui est dans Genèse 3, où le serpent dit « vous serez comme Dieu ».
Oui.
Oui, et ça, on l'a toujours dit. On a toujours dit que le serpent reprend le projet de Dieu.
Oui, mais le serpent est mis en scène par le judaïsme.
Oui, il est mis en scène par le judaïsme ou par une tradition mésopotamienne.
Ouais. Reprise dans le judaïsme.
Exactement. Donc, c'est une idée qui préexistait au monothéisme.
D'accord.
Hein? Et on l'a toujours dit, donc, que le projet du serpent, c'est le projet de Dieu, qu'il s'est accaparé. Et le problème du serpent, c'est pas qu'il se trompe de projet, il se trompe pas de projet. Il se trompe de moyen pour l'atteindre.
Oui.
Le moyen, c'est le logos, c'est la raison, c'est la logique duelle de la rationalité du bien et du mal, du normal, de l'anormal, du vrai et du faux, etc.
D'accord.
Hein, c'est ça son problème au serpent. C'est pas le projet. Et c'est pour ça qu'il est doué. Et c'est pour ça qu'il est tellement convaincu, parce qu'il vise le bon projet.
Donc tu parles des dieux grecs et de leur anthropomorphisme, de leurs incarnations diverses et variées. Tu dis que les dieux grecs aimaient bien octroyer des parts de leur divinité aux hommes.
Oui, il y a un mélange, une intimité, une cohabitation, une promiscuité, est-ce qu'on peut dire, utiliser ce terme, où les dieux récupèrent les humeurs, le pathos de l'homme, le corps, la morphologie, ils s'accouplent, ils trompent, ils enfantent.
Oui, mais ils donnent de la divinité.
Et ils donnent de la divinité, effectivement.
D'accord.
Mais
ils sont réticents.
Il y a une certaine limite. Hein. Dans le monde grec, c'est le problème de la némésis. C'est-à-dire que, ok, mais de là à pouvoir monter jusqu'à l'Olympe,
oui,
et à faire partie du cercle, non. Ok. Mais il y a au moins un échange, et il y a une relation entre les dieux et les hommes qui n'est pas étanche. Il n'y a pas de mur absolu de séparation avec cette grande sainteté, cet intouchable Dieu, cette intouchable divinité inatteignable. Il n'y a pas ce mur d'étanchéité, d'interdiction absolue. Il y a du toucher continuel, il y a des similitudes continuelles entre les dieux et les hommes. C'est vraiment l'Antiquité, c'est vraiment ce qui précède le phénomène judaïque
du
monothéisme et surtout de la descente de la Torah.
Crois-tu au dieu de la mythologie grecque ?
La question est de savoir plutôt est-ce que je crois ou est-ce que je me rapproche de la manière que les anciens, les païens, l'Antiquité avaient d'appréhender le divin. Parce que leur construction de l'Olympe ou des Olympes scandinaves ou égyptiennes ou sumériennes ou acadiennes, c'est le même principe, hein, ce mélange entre les dieux et les hommes. En fait, la question, c'est pas est-ce que je crois à Zeus, à Osiris, nanana, c'est plutôt...
Non, est-ce que tu crois à la possibilité d'incarnation et d'interaction ?
Alors oui, donc ce que je réponds, c'est que ce qui m'intéresse, moi, dans le phénomène antique, c'est plutôt la conception qu'ils avaient de Dieu. Hein. Maintenant, si on va directement à la personne d'un dieu qui existait, est-ce que Osiris existait ? Alors bien sûr que les vérités existent. Les vérités ont toujours existé, et les hommes les ont incarnées. Mais la manière dont les hommes ont incarné les vérités, à une époque, c'était une manière qui était très anthropomorphique, très proche des hommes. C'est-à-dire qu'on pensait que le climat venait d'un dieu, et que ce dieu-là, c'était un dieu d'une nature humaine. Quand les dieux sont passés par le Sinaï, par le Logos, par la Torah, par la raison, et qu'on leur a interdit soudainement de se mélanger aux hommes, qu'on leur a interdit de s'incarner, d'être organique, biologique, eh bien, les dieux de la météo, c'est devenu la science de la météorologie. Mmh. Et puis, il y a eu la science de la chimie, la science de la physique, de l'écologie, de la biologie, de l'atome, enfin, toutes les sciences possibles et imaginables étaient avant de passer par la logique du logos, justement, mélanger avec des hommes mmh. et s'incarner dans des réalités à laquelle on donnait des noms, comme Thor, Odin, je ne sais quoi. Hein? Donc, ces vérités ont toujours existé. Mais ces vérités, c'est les hommes qui les ont décrites. Mmh. Donc, le dieu de la météo, qui aujourd'hui, c'est un bac plus je ne sais combien, ou de la physique ou de la chimie, eh bien, avant, c'était des secrets théurgiques, des secrets... caché dans une espèce de magie ou de sorcellerie, avec une relation, une compréhension des forces. Bon. Mais le dieu n'existait pas réellement. Mais il existait parce que l'homme l'avait créé. Comme aujourd'hui, la science n'existe pas réellement, mais elle existe parce que l'homme l'a créé, la science. Mais d'accord. Si un jour un homme descend sur Terre et qui marche sur l'eau, et qui dit, tu vois, la loi de la pesanteur, tu n'existes plus, il est en train de dire au dieu de l'homme moderne, bah je te mets une raclée, je te mets la tête au sol, et je mets mon talon sur ton cou, et tu ne marches plus, pesanteur, comme on pouvait casser l'icône d'un dieu à une époque. C'est juste les hommes qui construisent les dieux. Mmh. Alors, ce qu'ont fait les hommes, c'est qu'ils ont fait tomber les dieux. C'est-à-dire que ce n'est pas les dieux qui ont fait tomber les hommes, c'est les hommes qui ont fait tomber les dieux en bas, c'est-à-dire qu'ils ont tout transformé en logos, en raison, hein, en choses logiques. Alors on voit ça dans l'image de Daniel, de la statue de Daniel. C'est-à-dire la statue de Daniel qui est en tête, la tête est en or, ensuite c'est en argent, en bronze, et puis les pieds sont en argile mélangée de fer. Eh bien, il explique bien qu'avant, effectivement, on concevait le monde au travers de divinités qui étaient au ciel, mmh. et que petit à petit on les a fait tomber sur terre, et les divinités sont devenues des choses concrètes, logiques, palpables, qu'on peut prouver par l'expérimentation, ce qu'on appelle la science. C'est devenu des puissances où se mêlent la terre et le fer, l'intelligence et l'expérience ici pratique. On a fait tomber les dieux.
D'accord.
C'est tout.
Donc ce n'est rien d'autre. Dionysos, ça correspondrait à quoi aujourd'hui, par exemple ?
La fête, mais bon...
C'est pas un phénomène scientifique.
C'est une vérité. Tu dois à tout prix chercher le bonheur. Et tu dois à tout prix travailler pour que la société trouve le bonheur de manière égalitaire et que tout le monde ait droit à la fête. Bon, en même temps, à chaque fois qu'on prend un dieu, ce dieu-là, il est décrit de multiples manières.
Oui.
Alors, une fois, il va être décrit comme un ivrogne, et une autre fois, il va être décrit comme un maître de la médecine, Dionysos. Donc...
Il a plusieurs visages.
Voilà, mais... Toutes les vérités ont été transformées, ont subi une transmutation au travers de la raison grecque ou de la Torah juive ou de la philosophie hindouiste du phénomène du karma, c'est-à-dire d'une logique de l'action de l'homme qui se répercute en conséquence selon certaines causes. Tous les dieux sont passés par là et les dieux qui ne veulent pas passer par là... Ils sont vaincus définitivement. Bah, d'ailleurs, il y a une série américaine qui a été faite sur ça, qui n'est pas inintéressante dans le fond, puisque c'est American God, où on voit apparaître des vieux dieux scandinaves qui ont à lutter contre les nouveaux dieux. Et les nouveaux dieux, c'est la technologie.
Oui.
C'est en fait les anciens dieux. Bon, la série ne va pas plus loin, hein. c'est pas de la philosophie, donc ça s'arrête là, ils ont une intuition, mais en fait, tous les anciens dieux sont passés par le logos et se sont transformés en code, en technologie, en sciences médicales, physiques, etc. Et ceux qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté de passer par le Sinaï ou par le logos grec, eh bien, ils disparaissent de la scène, ils ont été oubliés, ils ne sont plus sur les tableaux.
Très bien. Alors, tu dis dans ton texte, l'Église, en essayant de produire des preuves savantes, fit de la divinité du Christ tout un pataquès et un galimatia absolument irrespirable. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Eh bien, Comme je l'explique dans mon texte, il a fallu que l'Église explique l'incarnation de Dieu au travers du judaïsme, c'est-à-dire d'un monothéisme, c'est-à-dire d'une divinité qui n'a plus le droit à s'incarner. Donc c'était un problème. Il faut produire un Dieu qui s'incarne dans une religion où il est interdit de s'incarner. Hein. Alors j'explique qu'ils ont eu affaire à l'argument de l'expiation, donc le sang d'un Dieu paye l'expiation qui est demandée par la raison. Donc du coup on arrive à faire coller l'idée d'une incarnation. Hein. Le pardon, tout ça. J'explique ça dans le texte. Alors, une fois que le christianisme a fait le pas d'expliquer l'incarnation de Dieu tout en réussissant à garder la Torah, à les garder tous les deux, à faire ce que Pierre voulait à tout prix faire quand il a vu le Christ là-haut, transfiguré, et à sa droite et à sa gauche, Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les prophètes de la loi. Hein. En fait, c'est la loi, Moïse, représentation de la loi, et puis Élie, représentation des prophètes de la loi. Il voulait mettre trois tentes. Mmh. Bon, ben, le christianisme a réussi à mettre ces trois tentes, c'est-à-dire à garder la Torah et les prophètes de la Torah qui interdisent l'incarnation des dieux et tout, et puis à garder quand même avec eux un dieu incarné. Tiens, réformation de la Torah, donc le sang du dieu paye, l'expiation de la Torah. Il a réussi son coup, le christianisme, à garder les deux. Donc après qu'il a réussi ce coup-là, eh bien évidemment, il fallait reformuler, comme il avait reformulé la Torah, qui devait donc recevoir l'expiation du sang d'un dieu, du sang de Dieu, eh bien il fallait reformuler aussi le Dieu un, le Dieu unique, qui s'était soudainement incarné, qui n'était plus seulement le Dieu Yahvé, Elohim, qui avait donné la Torah, c'était le Dieu incarné. Donc on a reformulé le Dieu incarné, parce que ça posait un problème, comment il pouvait s'incarner tout en restant là-haut. Donc on a fabriqué la Trinité.
D'accord.
On a fabriqué de tout propre, tout neuf, sorti des usines de la théologie, d'une subversion du christianisme. La Trinité, et alors là, la Trinité, ça a posé d'énormes problèmes. On tombe dans des discussions à n'en plus finir, parce qu'est-ce que le Père et le Fils sont égaux? Qui est premier, qui est dernier? Est-ce qu'ils sont pas égaux? Enfin, voilà, bon. Alors, il y a eu des schismes continuels. Hein. Ceux qui veulent étudier, étudieront. On n'est pas là pour enseigner le béaba. Hein. Si un chrétien sait pas ce béaba, hein, ne connaît pas ce problème de schisme et de la Trinité. Donc, tout ça, ça apporte rien. Ça apporte rien. Nous, on croit pas à la Trinité, on l'a expliqué. Dieu s'est fait homme. On vient d'expliquer comment nous, on prend cette question. Il reste un dieu un. Hein. Il reste un dieu qui... C'est pas une espèce de zombie à trois têtes, quoi. C'est pas Cerbère. Hein.
D'accord. Alors, tu soulignes également dans ton texte la particularité de l'époque à laquelle apparut Jésus. Donc une particularité théologique. Crois-tu que le temps de sa venue soit directement lié à cette particularité? En d'autres termes, penses-tu que Jésus soit venu contredire ou contrecarrer le processus de dépersonnalisation et de déshumanisation, hein, comme tu le dis, du divin qui commençait à s'enraciner à l'époque?
C'est vrai qu'il arrive à un carrefour. Alors, est-ce qu'il arrive à un carrefour? C'est ça la question. Ou est-ce qu'en fait, il a créé le carrefour? Où il a permis à ce que ce carrefour vraiment devienne absolument concret. Tout à l'heure, je parlais de la statue de Daniel, où cet homme-là voit un peu le plan de l'histoire, c'est un peu de l'historiographie. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il voit les dieux antiques, il voit comment les hommes, avant, concevaient les vérités qui dirigeaient le monde. Là, et la vérité et les vérités, par des divinités qui étaient au ciel, mystérieuses, magiques, et petit à petit, ces vérités vont tomber à terre, l'homme va les faire tomber, parce qu'il va rationaliser toute chose, prendre du fruit de l'arbre du bien et du mal, du logos, de la raison, de la Torah, et faire passer tous les dieux par la science, donc par cette science.
D'accord, ça c'est voilà. Ton interprétation de la statue de Daniel, il n'y a rien de politique, c'est pas l'Empire romain, l'Empire assyrien...
Mais oui, mais bien sûr qu'on peut le prendre sous cet angle-là, mais en le décrivant comme je le décris à la racine, c'est-à-dire je remonte le plus possible à la source de ce que peut signifier cette image. Mmh. Ensuite, effectivement, si on veut mettre la lunette de la politique, on va dire, ben oui, Avant, il y avait des petites nations, des petits rois, des petits dictateurs, ou des gourous. Et puis petit à petit, il y a eu des politiques avec des nations qui ont rationalisé la chose. Et puis la démocratie est venue, et puis la mondialisation. Et puis tout ça, ça va s'écrouler. Bon, bien sûr. Mais on peut prendre une autre loupe pour décrire ça, prendre la loupe de la science elle-même, comment la science a fonctionné. Il y avait l'alchimie, puis la chimie à ce moment-là. Hein, c'est la grande... Est-ce que l'alchimie est une pré-chimie, hein?
D'accord.
Moi, je dis, voilà, c'est l'idée de faire tomber les dieux, de faire tomber les vérités, de les faire passer par le logos, par la rationalité. Hein. Et quand le Christ arrive à l'époque de l'Empire romain, il y a un carrefour qui se crée, effectivement. On a l'impression que petit à petit, le logos grec va définitivement régner sur le monde, en termes de religion, de politique, de manière d'appréhender la vie, et on va définitivement faire tomber les dieux sur terre, quoi. Il y a un carrefour qui va se créer. Et le Christ arrive à ce moment-là, et j'ai l'impression qu'il est en train de dire, bon, tu vas prendre quelle direction ?
D'accord.
Est-ce que tu vas rester bloqué dans les dieux antiques ? Si tu restes bloqué dans les dieux antiques, tu vas disparaître. Parce que tout ce qui va être mouliné par la raison, comme je le disais à l'instant, va évacuer ceux qui ne veulent pas muter, se transformer. Si Thor ne veut pas se transformer et devenir un super dieu de l'informatique ou je ne sais quoi, il va être viré. Il fera partie des contes pour enfants qu'on lit à la veillée pour s'amuser ou pour faire de l'Hollywood, je ne sais quoi. Hein. Donc, est-ce que tu vas être évacué en essayant de sauver un monde qui est en train de se perdre, ou est-ce que tu vas définitivement basculer vers un autre monde en prenant le projet qu'avait le serpent, effectivement, de passer par la technocratie et par la science dominatrice, dictatoriale, finalement, qui inflige des vérités qui ne sont plus du tout magiques, mais prouvées par l'expérience ici-bas. Et le Christ arrive et il dit, moi j'ai une autre solution. J'ai une autre solution. C'est-à-dire que là, ce qu'il y a de remarquable, c'est que la solution du Christ, finalement, elle s'apparente plus à la conception qu'avaient les anciens. Les anciens croyaient que les dieux et les hommes étaient intimes. Le Christ aussi. Puisqu'il pose la question aux hommes, est-ce que tu vas pas devenir Dieu ? Bien sûr, si tu vas devenir Dieu, pour moi c'est facile de devenir homme. Hein, Dieu ne va pas défendre la possibilité de devenir un homme. Il ne va pas défendre cela devant les hommes. Dire, non, le vrai scandale, c'est toi, homme. Mm-hmm. Est-ce que tu peux devenir mon fils ? Est-ce que Déjà, les anciens croyaient que tout était créé par la semence, le sang ou la sueur des dieux. Dans certaines religions, c'était la sueur. Je crois qu'en Iran, dans l'antique religion iranienne, certains dieux avaient créé le monde par leur sueur. Bon, dans d'autres religions, surtout en Égypte, c'était la semence. Et d'ailleurs, l'embouchure du Nil était souvent assimilée à une vulve. Hein. Il y avait vraiment de la sexualité là-dedans. Hein. Et puis, dans nombre de cas, c'est carrément le sang. Il fallait que le sang soit mélangé à la terre. Bon.
Donc, c'était organique.
Ouais. Donc on voit bien que l'intuition des anciens était pas si mauvaise que ça. Voilà, était pas si mauvaise que ça. C'était facile pour eux ensuite d'accepter le Christ et de passer une étape supérieure, dire bon, il n'y a pas de vérité toute puissante et magique. Il y a un Dieu effectivement qui va me transformer, qui va me ressusciter pour devenir tel que lui et faire en sorte que c'est mon arbitraire, c'est ma volonté qui fait loi. Hein. Bon. Et puis il y a l'autre chemin, le chemin de la loi, où on essaie de faire correspondre l'incarnation d'un dieu, donc une image un peu antique des dieux, avec le chemin de la loi. Le chemin de la loi, c'est quand même le chemin du diable.
Avec le chemin de la loi et aussi avec l'intuition qu'ont les hommes d'une organisation parfaite du cosmos.
Oui, effectivement, qui était aussi dans chez les anciens aussi. Déjà, le logos était aussi là.
Les deux intuitions.
Exactement.
Qui luttaient.
Voilà. Alors, je me rappelle cette parole dans les frères Karamazov, mais c'est pas dans la scène du grand inquisiteur. C'est dans la scène où les deux frères parlent ensemble.
Alyosha et Ivan.
Oui, dans, au restaurant, on a mis la vidéo sur notre site.
C'est au moment où Ivan va raconter le grand inquisiteur.
Voilà. Et il lui dit alors celui qui va devenir moine, hein, il est scandalisé par le propos de son frère. Et il lui dit, mais t'es en train de me dire que l'Église a fait en sorte qu'on trouve Dieu par le chemin du diable. Mais voilà, c'est extraordinaire. Je veux dire, Dostoïevski, c'est pas un théologien. Hein. C'est pas un théologien. Hein. C'est un mec qui a commencé par une révolte politique. Hein. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'Église va proposer finalement de s'accaparer l'incarnation de Dieu, donc s'accaparer aussi l'idée que Dieu va t'incarner, toi, homme, en Dieu. C'est ça le vrai scandale. Donc, l'Église s'accapare cette vision scandaleuse...
Ce joyau.
Voilà, de la divinité qu'avaient déjà les anciens.
Oui.
Mais le faire corroborer à l'idée de la Torah qu'avaient les Juifs, et finalement, l'idée de la Torah, comme tu viens de le faire remarquer, elle était déjà en germe dans l'idée de l'harmonie, de la correspondance harmonieuse du monde. Donc,
oui, c'est l'intuition
le logos.
C'est l'adhésion à l'harmonie du cosmos.
Voilà. Donc, l'Église va rattacher la conception antique de ces dieux anthropomorphiques avec la conception toute nouvelle du logos grec ou de la Torah juive. Et du coup, on est obligé de passer par le chemin du diable pour atteindre Dieu, par le chemin de la loi. Alors que finalement, les anciens qui étaient attachés aux Olympes, des dieux capricieux, arbitraires, pour atteindre le Christ et cette vision scandaleuse d'un Dieu homme et d'un Dieu qui va transformer l'homme en Dieu, eh bien les anciens, la porte était toute prête. Il suffisait qu'ils l'ouvrent. Ils n'avaient pas besoin de passer par le chemin du diable. Ils suivaient simplement le cheminement, je dirais, pratiquement dialectique de la conception de Dieu qu'ils avaient. Et ils montaient d'un cran, c'est tout.
D'accord.
Mais là, en l'associant avec la Torah, on fait faire un grand détour. En passant par le chemin du diable. Mais si t'es appelé par Dieu, si tu l'aimes, il faudra bien un jour faire comme Moïse, casser la table de la loi et devenir ecclésiastique.
Oui, au bout de 40 ans de désert.
Ben oui, voilà.
De la loi.
Et si tu le fais pas, ben de toute façon, au moment de la mort, il faudra bien admettre que la loi ne règne plus là-haut, que Dieu ne s'est jamais soumis à la loi et qu'il n'a jamais payé quoi que ce soit à la loi. Il t'a juste aimé et il a effacé ta dette. Il n'a payé à personne, il n'y a pas de loi.
Oui, oui, il n'a pas adhéré à l'harmonie du cosmos.
Exactement. Pour résumer, en fait, c'est est-ce que je dois passer par le sang ou est-ce que je dois passer par le logos ? Je dois passer par le sang. Et les anciens étaient plus proches des dieux parce que eux aussi voulaient que ça passe par le sang, que ça passe par l'homme. Voilà, le Christ, il n'a pas donné des tables de la loi à manger. Il a dit, tiens, bois, c'est mon sang, tiens, ça, c'est ma chair. Voilà,
ouais.
Donc, oui, effectivement, je me suis fait homme pour que tu te fasses Dieu.
Ok, donc concrètement, dans la vie de tous les jours, adhérer à cette vision de la divinité du Christ, qu'est-ce que ça change par rapport à une adhésion plus judaïque ?
C'est un petit peu plus direct de ne pas passer par le chemin du diable pour atteindre Dieu.
Et direct dans quel sens ? Dans quel aspect ?
Parce que la loi, elle va muscler ta conscience du bien et du mal.
Oui.
Donc elle va muscler, aiguiser ta capacité culpabilisatrice, rationnelle, logique,
d'accord,
pour expliquer Dieu.
Généralisante.
Alors que l'ancienne méthode, qui était finalement la méthode magique, au lieu de basculer vers la conscience, elle va essayer de basculer vers la foi en toi. Elle va développer un autre organe qui s'appelle la foi.
Oui.
Et la foi, c'est le propre de la liberté. La foi, c'est j'ai décidé que je voulais ça, et je veux que ça s'incarne, même si ce n'est pas réaliste.
C'est une autre dimension de la pensée, comme disait Chestov.
C'est la deuxième dimension de la pensée. Donc évidemment, c'est aussi très dur de vivre par la foi dans un monde qui vit sur le large chemin de la raison, c'est-à-dire du diable. Mais quand même, avoir ce rapport avec Dieu, où on n'est pas écartelé entre l'attente de la loi et l'attente d'un Dieu fait homme, et d'un Dieu qui va me faire Dieu, fils de Dieu, c'est quand même plus confortable de ne pas vaquer entre trois tentes. Parce qu'à chaque fois, on doit s'articuler, se contorsionner pour arriver à faire corroborer un Dieu tout-puissant qui va finalement se soumettre à une loi, donc moi aussi je dois m'y soumettre.
Oui, il y a toute une gymnastique qui est fatigante, oui.
C'est ce que disait Alyosha, tu dis que l'Église me fait passer par le chemin du diable pour atteindre Dieu, bah oui, il faut à un moment donné que la voix du Père s'élève et dit « Non, tu vas me virer, c'est tente, Pierre. Il n'y a que lui qu'il faut écouter. » Et les autres, là, c'est la fin de ces deux tentes-là. Et donc, il vaut mieux, à la limite, avoir la tente des dieux antiques. Les dieux antiques avaient une tente magique, proche de la sorcellerie, proche de la magie. Je vais être scandaleux en prononçant des mots qui sont imprononçables dans le monde chrétien, mais la magie et la sorcellerie, c'est juste de dire que les dieux sont anthropomorphiques.
Ils sont proches de nous.
Ouais, c'était juste ça. C'était juste pas loin de dire ils sont arbitraires. Et donc on n'est pas loin de la foi. Arbitraire, ça veut dire ce que je veux va se réaliser. C'est ma volonté qui tient lieu de raison. Alors bon, ils n'y étaient pas encore. Ils pratiquaient la magie, ils pratiquaient la sorcellerie parce qu'ils n'avaient pas compris le phénomène de foi.
Il y avait un principe de cause à effet aussi dans la sorcellerie,
oui,
dans la magie.
Oui, qui déjà, comme tu l'as dit...
Qui préfigure une loi. Ouais.
Mais je dirais qu'après, passer au Christ, ça a évité ce grand détour de la loi, de la culpabilisation,
oui,
et
oui,
puis de la création d'un monde technocrate tel qu'on le voit aujourd'hui, qui est invivable.